L'État renouvelle son aide financière à la Nouvelle-Calédonie, quelques 55 milliards de francs pour 2027. Les membres de la mission transpartisane seront reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron la nuit prochaine. C'est Sonia Lagarde qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. La stabilité institutionnelle est le moteur de tout, insiste le maire de Nouméa, extrait dans ce journal. Le feu qui sévit au dépotoir de Pointe-Bou toujours actif. Le travail des sapeurs-pompiers devrait durer au moins tout le week-end. Les habitants sont invités à se confiner pour ne pas respirer les fumées. Le patrimoine historique à l'honneur ce week-end encore. Plusieurs balades pédagogiques sont organisées par la ville de Nouméa ou encore l'association Témoignages d'un passé dans le cadre du mois du patrimoine en province sud. Et puis comme chaque vendredi soir, nous passerons à la fin de ce journal en revue les principaux rendez-vous sport du week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. En Calédonie, coup de projecteur sur le 42e marathon international de Nouméa. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. C'est l'information du jour. Au terme des entretiens de la mission transpartisane, le gouvernement annonce donc le renouvellement de l'aide financière de l'État, la Nouvelle-Calédonie. Une aide allant jusqu'à 460 millions d'euros, soit quelques 55 milliards de francs pacifiques pour l'année 2027. Et la mission transpartisane sera reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron ce vendredi à 16h, Léo Fichou.
Oui, ce sera la nuit prochaine pour nous à 1h du matin. Selon son entourage, le chef de l'État entend marquer la poursuite de son engagement pour la Nouvelle-Calédonie en faisant un point sur l'économie, sur la vie quotidienne et sur la situation financière. Auparavant, dans un communiqué publié hier soir, Sébastien Lecornu a précisé l'aide financière de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre qui déclare vouloir agir pour la stabilité et le fonctionnement du territoire. Il affirme qu'une règle guide son action, ne pas rester sur le statu quo, car, écrit-il, le statu quo crée du désordre à court terme sur le plan social, économique et politique. Il ajoute que la méthode du gouvernement a permis d'avancer par des mesures concrètes. Ces mesures sont au service des Calédoniennes et des Calédoniens. Elles préservent aussi la stabilité du territoire. Dans ce communiqué, le Premier ministre détaille l'aide de l'État. 11 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs pour la fin 2026. 50 millions d'euros, soit 6 milliards de francs pour démarrer 2027 au travers d'un projet de loi de finances de fin de gestion. C'est un texte qui ajuste le budget de l'année en cours. Le gouvernement propose ensuite entre 400 et 460 millions d'euros, soit entre 48 et 55 milliards de francs. Ils seront compris dans le projet de budget 2027, dont une majorité de subventions. Ce soutien de l'État est conditionné à des réformes, mais il est à la hausse par rapport à ce qui était prévu initialement.
Peu de commentaires des élus calédoniens à la suite de la publication du communiqué du Premier ministre et alors que la mission transpartisane était reçue à déjeuner la nuit dernière pour nous par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Le député Nicolas Metzdorf salue toutefois cette aide de l'État et le succès de la mission transpartisane, même si, dit-il, le contrat de désendettement à long terme n'est pas finalisé.
C'est une vraie réussite de la mission transpartisane. Le fait d'y avoir été tous ensemble en défendant la même chose a porté ses fruits. On a obtenu les financements qui nous permettent de boucler l'année 2026 sereinement sans remettre en cause nos politiques publiques. Il nous en manque un peu pour l'année 2027, mais le budget se fera en deux fois, c'est-à-dire un au début de l'année avec le projet de loi de finances et un deuxième, comme on fait là pour 2026, fin d'année 2027, où on pourra compléter ce qui manque s'il en manque. Donc une vraie réussite. On reste un peu sur notre faim concernant le contrat de désendettement à long terme, même si on a obtenu que la plupart des crédits qui seront versés à la Nouvelle-Calédonie en 2027 le soient sous forme de subventions et non pas de prêts. Donc on amorce quelque part déjà le fait de transformer les prêts en subventions, même s'il manque la formalisation d'un contrat de désendettement à long terme, mais les discussions continuent sur le sujet, donc très satisfait. L'équipe a été complémentaire, que ce soit le président du gouvernement, les parlementaires, la présidente de la province, la présidente du congrès. On peut dire qu'on a formé une équipe efficace, donc on n'a pas perdu notre temps.
Satisfaction également de la présidente du Congrès, Virginie Rufnak, qui considère que la proposition du gouvernement correspond grosso modo à 90% des demandes des Calédoniens. Elle relève d'abord l'aide apportée par l'État pour finir 2026.
Il y a vraiment une volonté ici à Paris, malgré les budgets contraints, d'accompagner la Nouvelle-Calédonie, toutes tendances politiques confondues, je dois le dire. Et nous avons eu aussi une forte écoute de la part du gouvernement, puisque le Premier ministre a décidé de nous accorder les moyens que nous avions sollicités pour terminer terminer l'année 2026. Le président du gouvernement avait donc dit que nous avions besoin de 7 milliards de plus pour pouvoir correctement commencer l'année 2027 et terminer l'année 2026, notamment pour le paiement des retraites du privé, mais aussi du RUAM. Et ceci a été facilement obtenu. Enfin, en tous les cas, le gouvernement, le Premier ministre, a prévu de l'intégrer dans le projet de loi de fin de gestion qui sera voté en début décembre.
Et la présidente du Congrès revient aussi sur ce qui est prévu pour l'année 2027.
Pour 2027, nous ne sommes pas encore tout à fait sortis d'affaires et il nous faudra encore un soutien de l'État, car c'est difficile suite aux émeutes et aux nombreux dégâts, 2,5 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 300 milliards CFP de destruction lors des émeutes. Il faut un peu de temps pour se redresser, se remettre. L'État a consenti une somme importante pour 2027. Effectivement, nous aurons 521 millions d'euros, donc près de 60 milliards, enfin un petit peu moins. Pour passer le cap, ce sera l'accompagnement de l'État pour 2027. C'est très important d'avoir obtenu ces moyens. Ils étaient indispensables pour le redressement de la Calédonie. Et charge à nous maintenant de reprendre confiance dans notre économie, de reprendre confiance dans la Nouvelle-Calédonie, d'avoir une politique de relance importante pour libérer les énergies et qu'il y ait à nouveau des investisseurs et des gens qui croient dans le territoire pour que progressivement, la petite amélioration que nous vivons, le petit redressement au travers d'une légère augmentation de nos recettes fiscales depuis quelques mois, puisse prendre vraiment tous ses effets et que la Calédonie redevienne prospère pour que les Calédoniens s'y sentent à nouveau bien.
On est un peu en dessous de ce que l'on avait envisagé pour 2027, ajoute Virginie Rufnec, qui parle tout de même d'une très bonne nouvelle et qui précise que tout cela doit encore être consolidé dans les jours à venir avec le Premier ministre. Il faut notamment clarifier la répartition des 55 milliards entre la part subvention et la part de prêt. J'ajoute que les élus calédoniens ont aussi trouvé l'appui du groupe de contact de l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie dans un courrier adressé jeudi à Emmanuel Macron. Ce groupe qui réunit tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale juge nécessaire une aide d'au moins 500 millions d'euros sous forme de subvention en 2027, ainsi qu'une accélération des procédures de reprise des usines de nickel et un contrat de désendettement permettant d'apurer la dette liée aux prêts garantis par l'État. Parmi les 12 signataires figurent notamment Johan Gilet pour le Rassemblement national et Bastien Lachaud pour la France insoumise.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. Êtes-vous rassuré par les annonces faites par le Premier ministre en réponse aux demandes d'aide de la mission transpartisane? Si vous êtes rassuré, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 83% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la France doit réaffirmer clairement sa souveraineté sur Matthew et Hunter face aux revendications récurrentes du Vanuatu. Ils sont 17% à ne pas partager cette opinion. La stabilité institutionnelle est le moteur de tout, déclare Sonia Lagarde. Le maire de Nouméa a été ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle est restée très discrète depuis sa réélection en mars dernier pour un troisième mandat à la tête de la municipalité de Nouméa. Et c'était l'occasion, Léo Fichou, d'un large tour d'horizon de l'actualité.
On s'est engagé à reconstruire la ville, déclare Sonia Lagarde, alors que les violences insurrectionnelles ont causé des dégâts évalués à plus de 4 milliards. Des travaux de reconstruction qui avancent, même si le maire de Nouméa regrette que cela prenne du temps. Les travaux ont été faits en priorité dans les quartiers nord avec la reconstruction de l'hôtel de police de Rivière-Salée qui accueille désormais les polices nationales et municipales. Un appel d'offres est en cours pour la reconstruction du pôle des services de Rivière-Salée. De gros travaux routiers ont aussi été lancés dans ces quartiers. Sonia Lagarde balaye les critiques de ceux qui lui reprochent de concentrer ses efforts sur ces quartiers-là.
Je trouve que cette critique, elle est stérile, elle est malvenue parce que ceux qui dit ça n'habite certainement pas ce quartier populaire de Rivière-Salée qui a été extrêmement endommagé avec des gens qui ont été en souffrance. Et la ville, vous savez, c'est un tout. Et donc, on ne peut pas faire des choses que dans un quartier et puis oublier les autres. Donc, la nécessité a impliqué qu'on aille d'abord sur Rivière-Salée qui avait été très endommagée. Donc, moi, je veux bien accueillir les critiques, mais quand elles sont de cet ordre, dans un quartier très populaire, avec une diversité culturelle incroyable, on doit penser à tout le monde. Donc, on peut critiquer quand c'est utile, mais quand c'est inutile, il ne faut pas le faire.
L'État participe à la reconstruction au travers notamment du plan de relance. Plusieurs actions ont été financées à Nouméa.
Dans la première vague, la vague 1, on a refait le talus du Wentoro qui s'effondrait juste en face de la bodega. Donc là, on a eu un financement très important de l'État. Sur la vague 2, on y a inséré toute une partie d'assainissement qui est liée à la piste cyclable qui part de Nguéa et qui va rejoindre à travers le faubourg Blanchot la ville. On a aussi bénéficié de fonds de l'État concernant la digue de Port-Garnier avec l'enrochement qui s'effondre et donc on va refaire. Donc voilà les trois travaux pour lesquels nous avons bénéficié d'aide de l'État.
Plus de deux ans après mai 2024, on constate aujourd'hui une vraie misère sociale, souligne Sonia Lagarde. Elle relève une forte progression des aides et des besoins. Pour elle, cette situation doit amener à la réflexion, notamment sur l'avenir institutionnel.
On voit bien que la misère est au rendez-vous. Mais tout ça, c'est la cause de qui ? Les émeutes. Et donc, ça doit amener à réfléchir pour se dire, est-ce qu'on a encore envie de voir ça ? Est-ce qu'on a le droit de laisser nos populations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans cette misère qui s'est installée et avec des nouveaux pauvres ? Eh bien, la question est non. Et donc, l'État ne pourra pas indéfiniment verser de l'argent comme ça. Et donc, aujourd'hui, ça doit faire réfléchir tout le monde, et y compris ceux qui sont dans cette précarité, qui n'ont rien demandé, mais qui subissent aujourd'hui. Donc, relever le pays et faire en sorte que ça fonctionne, alors il faut réfléchir à notre avenir institutionnel. Parce que là, on a touché le fond, mais peut-être pas. Demain, si le pays venait à changer, et que je vais le dire tout de go, je cache pas mes mots, si le pays devenait indépendant demain, alors je pense que la précarité serait encore bien plus grande. Donc je demande à tout le monde d'avoir un peu de sagesse et de réfléchir.
Évoqué également avec le maire de Nouméa les difficultés du commerce en centre-ville, mais aussi sur les questions d'insécurité. Concernant la situation financière de la ville, le maire de Nouméa craint notamment une baisse du FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, ce qui aurait des conséquences graves pour la ville de Nouméa.
Ça veut dire qu'on ne serait plus à payer que le fonctionnement, plus d'investissement. Et on serait même, à la fin de l'année, à ne plus pouvoir payer l'intérêt de la dette. Donc, quand on va chercher de l'argent à Paris, c'est bien. Mais je crois qu'il faudra regarder tout ça de manière globale. Je voudrais insister sur ce point. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas baisser le FIP aux communes. Parce que ce sont les communes qui investissent. C'est elles qui vont travailler le BTP. Et donc, on tournera en ce moment la queue. Parce que si jamais on n'a plus d'argent, eh bien, on ne pourra plus faire d'investissement. Et donc, on ne pourra plus faire travailler le BTP. Donc, il faut être relativement raisonnable sur la répartition de l'argent, autant que faire se peut. Mais tout ça dépend aussi, concernant les ressources fiscales, d'une stabilité institutionnelle. C'est le moteur de tout. Et donc, s'il n'y a pas de stabilité institutionnelle, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver un accord, alors on se prépare des jours extrêmement compliqués, en particulier pour les communes.
Et à ce titre, Sonia Lagarde a été interrogée sur la mission transpartisane qui finit son déplacement à Paris et sur l'aide qu'elle a obtenue.
C'est bien d'avoir tenté la chose, parce que on est aujourd'hui, moi j'ai pas peur du mot, on est un peu des mendiants, hein. Et heureusement que la France est là. Ça aussi, c'est un sujet de réflexion. Je m'arrête deux secondes, mais je crois qu'il est important. Alors c'est bien d'y avoir été, en tout cas ça n'est pas totalement dans ce qu'ils espéraient obtenir, mais il y a quand même une avancée de l'État, et l'État à travers ça prouve qu'elle ne marque aucun des intérêts pour la Nouvelle-Calédonie, et c'est tant mieux. J'ai lu quelque part qu'on n'était pas des Français de deuxième zone. Oui, bien sûr qu'on est des Français à part entière, et ça nécessite l'aide de l'État.
Interrogée sur les élections provinciales, Sonia Lagarde rappelle qu'elle a apporté son soutien à la liste d'Union, les loyalistes, le Rassemblement, et ce parce qu'ils veulent le maintien dans la France. Elle estime qu'il n'y avait pas d'autre choix que le pacte de gouvernance avec l'éveil océanien pour faire de vraies réformes en profondeur de la Nouvelle-Calédonie.
Une interview de Sonia Lagarde à retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de RRB. Elle sera rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. L'actualité dans la grande région Pacifique, les dirigeants des îles du Pacifique condamnent conjointement l'essai de missiles effectué par la Chine le mois dernier et ils réclament un préavis d'au moins 24 heures pour tout essai de missiles balistiques intercontinentaux. C'est la réaction officielle du Forum des îles du Pacifique qui a été formulée dans un communiqué publié hier soir à l'issue du sommet, et ce malgré les pressions exercées par Pékin. Charlotte Coulson.
Le président des Palaos, Surangel Whip, salue la déclaration approuvée par 17 des 18 membres du forum. Seule la République de Nauru, anciennement Nauru, a exprimé son désaccord. Dans cette déclaration, les dirigeants expriment leurs préoccupations concernant le récent essai de missiles balistiques intercontinentaux qui a survolé le territoire de plusieurs membres sans préavis, en bonne et due forme. Les dirigeants des îles du Pacifique appellent tous les États procédant à des essais d'ICBM à garantir la transparence et à assurer les autres nations, notamment en communiquant un préavis d'au moins 24 heures avant l'essai conformément aux pratiques internationales. En réaction, le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les Palaos de chercher à détourner les positions des autres membres du forum. Pékin avait déjà exprimé son désaccord et menacé de conséquences après la présence du ministre taïwanais des Affaires étrangères à la cérémonie d'ouverture du sommet.
Il est 18h02 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tous les vendredis midi, c'est Osso Buco au Pizza and Pasta. Un plat généreux, mijoté avec amour, servi avec ses spaghettis. Fondant, savoureux, réconfortant. Le vrai rendez-vous gourmand de fin de semaine. Tous les vendredis midi, ne cherchez plus. C'est Osso Buco au Pizza and Pasta. Réservez votre table au Pizza and Pasta au 24 30 70.
Info soir, Lionel Sabot.
Avec la suite de l'actualité en Calédonie à Pointe-Bout, voilà deux jours que les sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le feu qui consume le dépotoir. Cet après-midi, les agents ont réussi à atteindre le cœur du feu, mais l'incendie reste actif. C'est un travail de fourmi, nous a dit Arnaud Bondy, le directeur du Civum VKP, compte tenu de la quantité du combustible sur le site.
La propagation est limitée depuis hier. En fait, il s'est étendu sur l'ensemble du massif de déchets, mais il n'est pas sorti, ce qui était la première crainte des pompiers compte tenu des conditions météo d'hier. Il n'est pas sorti du site, donc il est contenu dans le site. Il arrête de se propager, mais par contre, il y a énormément de combustible, il y a énormément de gisements de déchets, donc du coup, il y a de la matière à brûler pendant longtemps. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse l'attaquer et en profondeur avec des engins de terrassement. Donc ça va être un travail de fourmi d'attaquer progressivement les points chauds et de aller chercher le feu en profondeur et atténuer les fumées le plus vite possible.
Et le sinistre dégage beaucoup de fumée. Le maire de la commune, Yann Peraldi, invite donc les habitants à fermer portes et fenêtres pour éviter au maximum de respirer ces fumées dont la toxicité est encore inconnue. En bref, deux jours après l'incendie qui a touché les locaux du conseil coutumier d'IAI, le Sénat coutumier appelle, et je cite, à l'apaisement, au calme et à la responsabilité en privilégiant les voies du dialogue, de l'écoute et du respect mutuel. Communiqué publié en fin de matinée par le nouveau président du Sénat coutumier. Laissez vivre les marchés ruraux, c'est le coup de gueule de Ghislaine Arly, la présidente du marché de Mamy, qui était à notre invitée du matin à 7h30 pour nous parler du marché du verre de Bancoul qui aura lieu à Farino le 13 septembre. L'occasion de dénoncer aussi la situation difficile que traversent les petits marchés depuis les émeutes de 2024. Une situation aggravée encore par la multiplication des contrôles administratifs qui sont effectués par ce que Ghislaine Arly appelle les bureaucrates. Elles mettent en cause leurs contrôles incessants qui font peur aux gens et aux exposants qui essaient de vendre, par exemple, le produit de leur pêche. Et elle appelle à accompagner ceux qui travaillent.
Tout ce qui est hygiène, je suis d'accord. On a tout fait, nous, au marché de Farino, pour avoir une hygiène impeccable, ça, je suis d'accord. Mais à quel moment on a été empoisonné dans les marchés de brousse? À quel moment des personnes ont été empoisonnées? Donc, j'en ai bien savoir, moi. Donc, pourquoi on en a après nous? Donc, mon marché de la foi, ils sont passés. À Nouméa, on sait qu'ils sont passés. Ils viennent à 30, 40. Ils font peur aux gens, avec les gendarmes, avec la police. Donc, ça, il faut. En tout cas, il ne faut pas venir au marché de Farino, hein, je vous dis tout de suite. Non, parce que moi, je suis pour les petites gens. Moi, nous, ça fait des années qu'on les aide, qu'on aide les gens, les petits producteurs. Alors, la Chambre d'agriculture, Jean-Christophe Niotou, qui est président de la Chambre d'agriculture, me soutient. Et on va lancer quelque chose. Parce que ça ne peut pas durer, ça. Il faut arrêter. Et les gens, il faut les accompagner. Il ne faut pas leur taper dessus. Il faut les accompagner.
Pour la présidente du marché de Mamy, il est clair que ces contrôles administratifs perturbent la vie des petits marchés et qu'ils sont complètement inadaptés. Laissez-nous vivre, déclare Ghislaine Arly, qui a décidé de prendre les choses en main en coopération avec Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture.
On veut lancer, moi en tout cas je veux lancer, j'en ai parlé avec Jean-Christophe, il est d'accord, on veut lancer un travail sur une charte des marchés ruraux et puis on va faire une fédération des marchés, donc j'appelle aujourd'hui tous les présidents d'associations de marchés, les communes, parce que les communes ils vont participer. à venir travailler sur une charte des marchés ruraux. Donc il faut à tout prix qu'on fasse, on va pas dire notre réglementation, mais presque, donc une charte des marchés. Il faut qu'on se saisisse des choses et puis qu'on discute tous ensemble et puis qu'on mette tout ça sur papier. Et pourquoi pas avec les services concernés. Et bien sûr, on n'est pas contre eux, on est avec eux, mais à condition qu'on nous soutienne, qu'on nous accompagne, qu'on fasse pas l'inverse. Je veux qu'on me contacte et puis je veux lancer donc d'ici un mois un rendez-vous à la mairie de Farino, lancer une fédération des marchés ruraux et puis faire un travail sur une charte des marchés.
Ghislaine Arlic, vous pouvez joindre au 75 21 20 75 21 20 si vous êtes intéressé par cette initiative et si vous partagez son indignation. En attendant, elle vous invite au marché de Farino spécial Vert de Bancoul qui aura lieu le 13 septembre. Nous aurons l'occasion d'en reparler bien évidemment. Une interview de Ghislaine Arlic qui est à retrouver en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc. La fin ce vendredi des doctoriales 2026, une 19e édition marquée par une remise de 4 prix contre 3 habituellement. Le jury a choisi de décerner un coup de cœur à Émilie Thiaouao pour son travail sur les violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie au regard du pluralisme juridique.
Je suis très heureuse, je ne m'attendais pas à gagner un prix parce que j'avais déjà gagné un prix lors d'une précédente présentation. Donc c'est ma deuxième présentation, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner un nouveau prix et encore moins un prix qui n'existait pas, donc voilà, très heureuse. Ce prix représente pour moi l'opportunité peut-être de déjà débuter un peu l'association, parce que du coup j'ai ouvert mon association mais sans fonds. Je suis actuellement en train de développer une application qui coûte plusieurs millions, mais du coup sur mes fonds propres. C'est l'association INA qui la porte et cette application permettra de se renseigner sur ses droits, de pouvoir être orienté correctement vers les dispositifs adéquats et d'être géolocalisé quand on sera en situation de danger.
Un prix qui s'ajoute donc aux récompenses habituelles, la meilleure présentation de première, celle de deuxième année et le prix de la meilleure perspective de valorisation. 3 jours de conférences qui s'achèvent aujourd'hui à l'IRD, l'association franco-australienne pour la recherche et l'innovation, organisait cette semaine un forum dédié au changement climatique et à la recherche scientifique dans le Pacifique. Charlotte Coulson.
Des chercheurs calédoniens, australiens ou encore néo-zélandais ont partagé leurs données avec un objectif en tête, fournir aux politiques publiques un état des lieux de la connaissance scientifique pour alerter lors de la COP31. Un objectif atteint selon Catherine Daniel, la présidente de l'association AFRAN.
Oui, l'objectif est atteint. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour dire que l'océan, c'est le cœur de notre planète. C'est comme ça que tous les systèmes climatiques sont en train de circuler dans le monde. Donc si on ne comprend pas l'océan, on ne peut pas comprendre le changement climatique, on ne peut pas aider toutes les communautés du Pacifique. C'est une des raisons pour laquelle l'Australie, qui est en présidence pour cette COP, voulait vraiment qu'il y ait ces voix du Pacifique. Donc très bientôt à Fidji, il y aura une réunion pré-COP. On va amener nos messages du Pacifique au pré-COP pour après amener au COP.
Et la pré-COP au Fidji se tiendra en octobre et la COP31, elle doit se tenir au mois de novembre en Turquie.
C'est un week-end riche en activités qui débute demain. Direction le nord pour commencer, Charlotte Coulson. À Ouégoua, la fête du Diaot animera le village tout au long de la journée.
Et sont au programme un plateau musical, divers stands et notamment de l'artisanat, de la gastronomie locale ou encore diverses activités sur le fleuve. Le tout de 8h à 20h au terrain municipal de Ouégoua. À Koumac, c'est la fête du nautisme qui fera vivre la commune de 8h à 16h. Rendez-vous sur la plage des Flamboyants et la base de Pandop pour assister à la course de va ou même participer à la régate de Touques version Koumac. On parle également de sport nautique, mais à Nouméa cette fois, la ville organise une journée dédiée demain à la piscine du Wentoro. Natation synchronisée, apnée, hockey subaquatique, toutes ces disciplines sont à découvrir de 8h à 13h. Et puis, il y en a qu'on préfère dans l'assiette que dans l'eau. Les crabes de Palétuvier sont à l'honneur demain. C'est la 4e édition du Fish Market qui prendra place au marché de Nouméa de 6h à 11h30.
La culture également ce week-end avec la 32e édition du mois du patrimoine en province sud qui se poursuit.
L'association Témoignages d'un passé organise une cyclo-rando demain matin au départ du musée maritime. L'après-midi, prenez vos chaussures de randonnée pour découvrir le mont Huo et son histoire. Balade également à travers les rues de la ville de Nouméa avec l'application Graal et les explications d'un médiateur culturel. Le départ se fera à 10h à la maison Higginson. Et enfin à Ploum, une exposition de jeeps et de matériel de la Seconde Guerre mondiale est organisée de 9h à 15h. C'est à la chapelle américaine de Plum.
Un voyage dans l'histoire et plus particulièrement dans l'histoire de nos ancêtres. Hein. C'est demain à Nouméa, la ville organise une initiation à la généalogie aux archives municipales.
Ça n'est pas simple de fouiller dans le passé et encore moins de s'y retrouver dans les nombreux documents conservés par les archives de la ville. Mais demain, Jean-Pierre Palladini, généalogiste amateur chevronné, donnera les clés pour débuter une recherche. On écoute les précisions d'Élodie Lalenay, la chef du service de la conservation et de la valorisation du patrimoine de la ville de Nouméa.
Pour la première fois, on va ouvrir les portes du nouveau bâtiment des archives au public. On vient, il y a quelques jours, de finir de déménager les 2,5 km linéaire d'archives, ce qui représente près de 7 tours Eiffel empilées l'une sur l'autre d'archives de la commune qui sont conservées désormais dans un seul et même lieu, aux normes, sécurisées pour le plus grand plaisir de mes archivistes. Et ce qui est intéressant, c'est Jean-Pierre Palladini qui va aider le public à savoir comment est-ce qu'on fait son arbre généalogique. Par où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on va chercher? Quels sont les différents endroits et les différents mots-clés pour faire sa recherche?
L'initiation à la généalogie, c'est demain de 9h à 11h au 9 rue de la République en centre-ville.
Histoire toujours, mais musicale cette fois-ci, ça se passe à Païtal. Les 30 ans de la musique sont organisés demain à l'Arène du Sud.
Et cette édition 2026 sera marquée par un moment particulièrement fort, l'hommage rendu à Marc Richer qui a largement contribué durant de nombreuses années au développement du doc socioculturel de Païta, à l'accompagnement des artistes et à la transmission musicale auprès des jeunes. Karaoké, concerts vont rythmer la journée de demain. On écoute les précisions d'Anouk Lefers, l'adjointe au maire de Païta.
C'est un événement qui va regrouper de nombreux artistes musicaux locaux de Païta, mais pas uniquement, d'autres communes également. Et on aura un certain nombre aussi d'autres stands avec des ateliers d'art vivant comme la sculpture ou encore de la vannerie. On aura également des manèges pour les enfants, des stands de nourriture, des associations sportives, notamment de la commune, qui seront présentes.
La musique à Païta, c'est demain de 8h à 21h à l'Arène du Sud.
Et puis à noter sur vos agendas également dimanche, les Petites Sœurs des Pauvres qui organisent un mini-marché à Ma Maison Stoffaubourg-Blanchot de 10h à 16h. Enfin, le traditionnel vide-grenier du centre-ville revient ce dimanche sur la place des Cocotiers et de 7h à 12h30. 18h et 14 minutes, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Réparer le robinet qui fuit, aménager la terrasse, refaire le jardin, la liste est longue.
Heureusement, Welldom Nouméa ouvre le 14 septembre, au 1 rue Arbulot, au PK6. Et en plus, le magasin sera ouvert du lundi au dimanche.
Enfin, tout ce qu'il nous faut pour nous lancer.
Welldom, bricoler, jardiner, décorer.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Allez, on va commencer la page sport de ce journal avec du football et la sélection calédonienne des moins de 19 ans qui disputait ce matin le deuxième match de la phase de groupe de la Coupe des Nations UFC. Les Cagous sont inclinés 3-1 et devront donc s'imposer lundi sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour se qualifier pour les demi-finales. Lundi également, la sélection féminine des moins de 16 ans jouera également contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sera le premier match du championnat UFC. Enfin, rendez-vous à minuit dans la nuit de lundi à mardi pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, la Nouvelle-Calédonie jouera contre la Chine. On en vient maintenant à Léo Fichou, au programme sport sur le territoire, avec à la une le 43e marathon international mobile de Nouvelle-Calédonie.
Et oui, le rendez-vous est donné dimanche matin. Près de 1500 personnes prendront le départ de la course reine, donc le marathon, mais également du semi-marathon, du 10 km Tokuyama et du challenge Agnès Bernard, une course réservée aux enfants. Écoutez Jérôme Troya, président du comité d'organisation du marathon.
Nous attendons avec impatience encore des inscriptions. Nous espérons avoir à peu près 1500 personnes, comme l'an passé. Beaucoup de militaires, parce que nous avons peu d'avions et peu d'étrangers, mais quand même 14 nationalités représentées. Ça va du portugais, en passant par la vénézuélienne, en passant par les Italiens, les Allemands, les Japonais, bien sûr, Australiens, Néo-Zélandais. Pour ceux qui ont fait celui de l'an dernier, il n'y a aucune surprise, c'est la même chose. On espère que ce seront des Calédoniens qui gagneront.
Et pour les retardataires, les inscriptions sont encore possibles. Une permanence est en place sous la tribune de l'hippodrome Henri Millard, et ce jusqu'à demain midi. On signalera également que la mairie de Nouméa met en place des restrictions temporaires de circulation et de stationnement pour permettre la bonne tenue de ce marathon, notamment sur la promenade Pierre Vernier, mais aussi sur la promenade Roger Larocque. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la commune.
La direction un autre hippodrome, celui de Boulou-Paris, qui accueillera demain la 7e et avant-dernière réunion hippique de la saison. Réunion organisée par le comité hippique du Nord. 10 courses au programme avec notamment le Grand Prix de la province Nord. Ce sera à 15h30. On jette un coup d'œil aux autres rendez-vous du week-end, Léo.
Il y aura du karting à Nakutakouin. Troisième manche du championnat de Nouvelle-Calédonie dimanche de 7h30 à 15h. Du futsal également avec 3 matchs en retard ce week-end. Du cyclisme direction le parc provincial de la Rivière Bleue dimanche également avec la première édition du Red Gravencé. Du gravel ou du VTT, il y en aura pour tous les goûts. Sport de raquette avec du padel à l'Olympique, P50 et P250 hommes, mais aussi du squash, toujours à l'Olympique avec l'Open intermédiaire. Et enfin, on terminera en mer avec un concours de pêche au gros organisé à Koumac. Ce sera demain, un concours à l'occasion de la fête du nautisme.
On signalera également que la Ligue calédonienne de handball organise dimanche les tests d'entrée au Pôle Espoir de Nouvelle-Calédonie. Ça va se passer de 9h à 16h à la salle Ernest Waeo à Dimbéa. On jette maintenant un coup d'œil aux principaux rendez-vous sport du week-end en métropole et dans le monde avec du football et la troisième journée du championnat de France de Ligue 1 à suivre demain matin à Lyon qui recevra Auxerre à partir de 4h et puis il y aura un choc entre le Paris Saint-Germain et Monaco, ce sera à suivre à partir de 6h. Les autres matchs se joueront dimanche et lundi matin pour nous, à suivre dimanche Lens-Lorient, Le Havre-Brest et Nice-Le Mans. Lundi matin, Troyes accueillera Strasbourg, Angers recevra Rennes et Marseille accueillera le Paris FC. Rappelons que ce matin, en match avancé de cette troisième journée, Lille est allé l'emporter 1-0 sur la pelouse de Toulouse. Au chapitre Sportco encore, à ne pas manquer ce week-end, le coup d'envoi de la saison du top 14, le championnat de France élite.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14, à vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Les 6 premiers matchs se joueront dimanche matin pour nous, à suivre à partir de 4h, Bayonne-Toulon, Castres-Vannes, Lyon-Clermont, Montpellier-Pau, Stade Français Perpignan et Union Bordeaux-Bègles Racing 92. Cette première journée se terminera lundi matin avec le déplacement du Stade Toulousain sur la pelouse de La Rochelle pour le premier choc de cette saison de rugby. Du rugby, il y en aura encore dans la nuit de samedi à dimanche, le troisième et avant-dernier test match de la Nouvelle-Zélande pour sa tournée en Afrique du Sud. Les Blacks avaient remporté le premier test. Ils s'étaient inclinés lors du deuxième. Ce troisième test se jouera à Johannesburg. De la Formule 1 également à votre programme avec la 13e manche du championnat du monde. Les pilotes se retrouvent à Monza, le temple de la vitesse pour le Grand Prix d'Italie. Les 3 séances d'essais libres sont programmées ce soir, la nuit prochaine et demain soir. La séance de qualif se disputera dans la nuit de samedi à dimanche. Quant au Grand Prix, il sera à suivre dimanche soir à partir de minuit. Et puis, il y aura également ce week-end du cyclisme avec la suite du Tour d'Espagne et du tennis avec, bien évidemment, la suite de l'US Open sur les courts de Flushing Meadows. On termine avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Les temps des prochaines heures, c'est avec vous Ismaël. Ça commence bien, pas de vigilance particulière à signaler ce soir.
Et oui, pour le week-end, ça promet. Ce soir justement, quelques nuages s'invitent sur la pointe sud de l'île des Pins et la côte est, avec éventuellement une ondée. Et les températures minimales ce soir, elles restent proches des normales, comprises entre 15 et 21 degrés du sud vers le nord, et elles descendent localement autour de 13 degrés sur l'ouest.
Un petit coup d'œil à demain matin.
La matinée, elle sera bien ensoleillée dans l'ensemble. En revanche, quelques nuages circuleront sur l'île des Pins, les Loyautés et l'est, et de petites ondées qui peuvent se déclencher en début de journée sur la façade est. L'alizé d'est-sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur l'extrême nord, et de 5 à 10 nœuds sur l'ouest en début de matinée.
Et demain après-midi, tout va globalement bien.
Un soleil qui dominera toujours largement. En revanche, des paquets nuageux circuleront parfois sur les îles et en cours d'après-midi, des nuages se développeront sur le relief avec une averse possible. Nuages qui déborderont localement vers les côtes. En fin de journée, le vent de sud-est se renforcera quant à lui de 15 à 20 nœuds, dépassant localement les 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur l'ouest. Les températures, elles, varieront peu par rapport à celles de la veille et s'échelonneront de 23 à 26 degrés.